Je vous invite à prendre votre Bible à Épître aux Philippiens, chapitre 1, les versets 9 à 10. Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen.
Bonjour à tous. Je vais avoir besoin de vos sourires. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai eu l'habitude de vous faire chanter. Et je suis beaucoup plus à l'aise dans ce rôle, hein, que dans celui de partager la parole. Même si vous savez, ceux qui me connaissent bien, que j'aime parler. Je voudrais partager avec vous un texte que qu'Antoine, qui est parti pour les activités des jeunes, nous a lu. Un texte qui n'est pas forcément facile à la compréhension immédiate, mais qui m'interpelle. Et alors que je réfléchissais au thème que je souhaitais partager, beaucoup de choses ont traversé mon esprit, mais vraiment celui-ci est resté le primordial. Je n'ai pas su... Alors, il est peut-être un petit peu compliqué, je ne vais peut-être pas être toujours très claire, mais c'est celui dont je ressens l'envie de vous parler. C'était un roi qui, depuis quelque temps, restait dans ses appartements. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait d'apparition publique. Et le peuple le savait quelque part dans une pièce dans son palais. Ce peuple, il l'avait délivré en abattant un géant avec un petit caillou. Il avait célébré des victoires à sa tête en dansant de toutes ses forces, tel que l'aurait fait un serviteur. Il l'avait aussi déçu en devenant le meurtrier d'un homme juste. Il avait dû le quitter, partir en exil, lorsque son fils aîné avait voulu régner à sa place. Et aujourd'hui, il était fatigué. Il était fatigué, il avait froid, et ses sujets se demandaient ce qu'il allait advenir. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce roi? Est-ce que vous l'avez... David. Et le temps passe, et l'un de ses fils, le second, se dit qu'il n'a pas publiquement dit qui devait lui succéder. Ce fils s'appelle Adonija et il dit « Je suis le second, Absalom qui a essayé de prendre la royauté est mort, donc logiquement, c'est à moi de devenir le roi. » Et donc, il commence à essayer d'obtenir des soutiens, d'aller auprès des proches du roi, de passer des alliances, parce qu'il a en perspective son prochain mandat. Et effectivement, certains d'entre eux décident de l'accompagner, mais Nathan, qui est un prophète, Tsadok et Benaja, qui sont des sacrificateurs, et puis sa garde rapprochée, qu'on appelle communément les vaillants hommes, eh bien ne partagent pas le projet. Adonija, ça ne l'arrête pas, et vous savez, lorsque l'on brigue un mandat, il faut aussi avoir la carrure de l'homme. Et donc, il décide eh bien, d'organiser une réception à laquelle il va convier tous ses partisans, et il va à ce moment-là offrir des sacrifices et inviter tous ses frères sauf Salomon. Nathan le prophète voit ces choses et il discerne avec justesse les intentions qui animent le jeune homme, si bien qu'il agit et va voir la mère de Salomon, Bathsheba, et lui dit « Je vais te donner un conseil si tu veux rester en vie, toi et ton fils. Le discernement des choses les meilleures, c'est le titre que l'on vous a annoncé. Nous voyons ici un homme qui sait interpréter une situation et qui, en conséquence, agit parce que cette action peut sauver des vies, la sienne, mais également celle de Salomon, celle de Bathsheba. Et on verra, cette histoire, on la trouve dans le premier chapitre des Rois, qu'effectivement, eh bien, grâce à cette intervention, David, publiquement, intronisera son fils Salomon comme étant celui qui doit lui succéder. Et Adonija va s'apercevoir qu'effectivement, le peuple va crier puisqu'ils vont le mettre sur un âne, et son complot va de fait être infructueux. Donc le discernement, c'est une capacité à exercer son sens critique. C'est une capacité à apprécier avec justesse des événements. Et c'est découvrir par le moyen de la réflexion. Ça, c'est cette définition que donne le Larousse du mot discernement. Et le discernement semble également une qualité que les apôtres souhaitaient pour les chrétiens. On voit Paul qui, lorsqu'il écrit aux différentes églises, eh bien, insiste sur cette capacité à discerner. Il le fait, par exemple, aux Éphésiens, lorsqu'il leur dit qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'est l'Évangile, et de manière à ce qu'ils puissent s'y attacher. Et il les interpelle aussi quand il leur dit, ça c'est dans Galates, pour ne pas se tromper d'Évangile. Manifestement, le discernement est une qualité dont le chrétien doit pouvoir se servir pour faire des choix et pour identifier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Alors, est-ce que le discernement, discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, est quelque chose que seul le chrétien possède ? Est-ce que seul le chrétien est capable de faire la distinction entre le bien et le mal ? C'est un choix qui a été confié à l'humanité. Dès le départ, en Éden, Dieu avait disposé un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas, en fait, eu ce discernement simplement avec la communication d'une loi, mais bien dès le départ. Donc, quel que soit l'homme, qu'il soit chrétien ou non, Dieu l'invite à discerner le bien du mal et à se positionner vis-à-vis de ce choix. Il l'a aussi interpellé Caïn, après donc le choix d'Adam et d'Ève dans le jardin. Ils en sont sortis parce qu'ils ont voulu exercer, et là ils ont choisi les choses, pas la bonne chose. Eh bien, on le retrouve dans Genèse, on va prendre ce texte, Genèse 4, à partir du verset 7. Vous connaissez l'histoire, ce sont deux hommes qui offrent des sacrifices, l'un est agréé, l'autre ne l'est pas. Et le fait de ne pas, de voir que son offrande n'est pas agréée, irrite l'un d'entre eux. Et on voit déjà, d'ailleurs, que l'irritation, eh bien, a des conséquences sur son physique, puisque son visage est abattu. C'est au verset 7, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Au verset 7, donc de Genèse 4, on voit un Caïn abattu. Et Dieu l'interpelle en lui disant, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. » On va s'arrêter là. Donc Dieu encourage l'homme à se positionner pour le bien. Donc dans le texte que nous avons lu, Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ. Dans d'autres versions, on retrouve c'est que votre amour, toujours pour parler de ce discernement, gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ. Et puis j'ai retrouvé une version qu'on dit pour les enfants. Ils ne sont pas là, mais j'ai trouvé que l'éclairage était encore intéressant. Afin de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et que vous choisissiez le bien, afin que vous soyez pur et exempt du mal pour le retour du Christ, et que vous soyez rempli des bonnes choses produites dans votre vie par Jésus-Christ pour louer et glorifier Dieu. Alors on reviendra sur ces différentes parties, mais je ne sais pas si ça vous interpelle. En tout cas, nous sommes appelés à choisir. C'est vrai qu'on se souvient toujours de ces paroles de Paul, je ne fais pas ce que je veux, ce que je ne veux pas, je le fais. Et donc, en tant que chrétien, on a devant nous comme une montagne, parce qu'on souhaiterait agir de la bonne manière, et on s'aperçoit par nos vies que très souvent, eh bien, la pente à gravir est énorme. Et j'avais envie de vous parler de ce passage où, dans Matthieu, on voit les disciples qui ont été interpellés par un homme pour guérir un malade, et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, que rien n'y a fait, ils n'ont pas réussi à guérir. Et donc, Jésus s'approche, et lui guérit ce malade. À ce moment-là, les disciples le prennent un peu à part et lui disent « Mais on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à chasser ce démon ?» C'était un démon, en l'occurrence. Et Jésus leur répond « Pour ce type de démon, il n'y a qu'une seule chose qui aide, c'est le jeûne et c'est la prière. » Et donc, il leur dit « Gens de peu de foi, si vous aviez cette foi aussi petite qu'un grain de moutarde, alors vous diriez à cette montagne, sors de là, jette-toi, et elle s'en irait. » Est-ce que, en tant que chrétien, par rapport à ce choix du bien et du mal, et de cette montagne que nous avons à gravir, est-ce que nous dirons à Christ, lorsque nous le verrons, nous n'avons pas su comment chasser ce démon de nos vies? Et il nous dira, voilà, c'est par le jeûne et c'est par la prière que ce type de choses est surmonté. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons qu'effectivement, il faut discerner le bien du mal. La question qu'on va se poser, c'est, mais d'où vient cette source? D'où vient cette connaissance? D'où vient ce discernement? Vous voyez que, et je demande dans ma prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il semble que la base, que le départ de tout, soit l'amour. C'est cet amour qui nous donne l'envie de connaître, c'est cet amour qui nous donne l'envie de comprendre. Et pour étayer tout cela, j'ai trouvé le passage de Jean 17, que je vous invite à prendre avec moi, où Jésus parle. Et il me semble que s'arrêter sur les paroles de Jésus, c'est peut-être là où nous allons trouver des réponses à ces différentes questions. Donc, dans Jean 17, on a au verset 26, par exemple, Jésus qui nous dit « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Manifestement, l'amour, c'est connaître le nom de Jésus, c'est connaître ce qu'il est. Et parce qu'on le connaît, alors il vit en nous. Et sa présence dans nos cœurs, eh bien, atteste de cet amour. Donc, que cet amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Nous parlions de ce Dieu qui ne nous laisse jamais dans l'histoire des enfants. Tous les chants que nous avons chantés également nous montrent combien Christ est celui dont nous avons besoin. Et ce texte encore renforce cette idée pour nous dire que lorsque Christ est dans nos cœurs, lorsque nous avons appris à le connaître, alors, eh bien, nous grandissons en connaissance et nous grandissons dans la compréhension de ce qu'il est. Donc la connaissance de Dieu produit l'amour. Dans le texte un petit peu juste avant, Jean 16, le verset 27, j'ai noté quelque chose qui encore m'a interpellée, c'est Jésus qui parle toujours en disant « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. » Donc, toujours dans l'histoire de cet amour, on le connaît parce qu'on découvre Jésus, et Dieu nous aime parce que nous avons aimé Jésus. Donc voilà ce qu'est Jésus pour nous, c'est celui qui nous relie à notre Père. Et grâce à cet attachement, alors nous voulons, comme beaucoup d'hommes dans la Bible, eh bien nous avons cette résolution de faire sa volonté, de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tout cela pourquoi ? Quel est l'objectif ? Dans quel but ? Eh bien, nous poursuivons la lecture. « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » J'ai aimé la version des enfants, afin que vous soyez purs et exempts du mal pour le retour du Christ, que vous soyez remplis des bonnes choses produites dans votre vie par Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que Jésus a la capacité de produire en nous les bons fruits de manière à ce que nous puissions louer et glorifier Dieu par nos vies. Et cette idée est renforcée, toujours dans Jean 17, quand Jésus dit « Je te glorifie ». Il le glorifie de quelle façon ? « Ton Fils te glorifie ». Alors, le verset, c'était verset 4, Jean 17. « Sur la terre, parce qu'il a achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus est venu pour mourir. Il a été jusqu'au bout de la mission que Dieu lui avait confiée. Et par cette mission remplie, accomplie, il l'a glorifiée. Et il le glorifie d'une autre manière. On le voit au verset 2. « Il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. » Alors la question qu'on se pose, qui sont ceux qui ont été donnés à Christ ? Et on trouve les réponses toujours dans ce chapitre. Au verset 7 et au verset 8, Jésus continue de lister les caractéristiques de ceux qui lui sont donnés. Ils ont connu Dieu, ils ont reçu ses paroles, ils ont cru que tu m'as envoyé et ils ont gardé les paroles. Et donc Jésus prie en disant « Je te prie de les préserver du mal, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Donc nous voyons combien cette qualité de discernement est déterminante pour nous aider à marcher jour après jour. Parce qu'évidemment, nous savons, tout comme l'a dit Paul, que nous ne sommes pas seuls capables d'avancer, mais nous avons ce désir de laisser Christ transformer notre vie à la gloire et à la louange de Dieu.